Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre invité du jeudi va être le régional de l'étape. C'est Bernard Lost. Eh oui, avec ses histoires de Covid, bon, on l'a pas eu depuis un petit moment. Mais là, il vient nous présenter son dernier livre, qui est le dernier d'une trilogie. Ça s'appelle « Dérapage sur l'herbe » et on va le retrouver dans quelques instants. Eh bien, chose promise, chose due, Bernard est avec nous. Bernard, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous ceux qui ont les oreilles rivées sur Radio Craponne, et je sais qu'ils sont très très nombreux.
Eh bien, on espère que ça va continuer, et puis bon, c'est toujours intéressant de parler d'auteurs, hein. En plus, toi tu es vraiment local, hein. Déjà on parle des régionaux, mais toi tu es sur Craponne. Alors, on va revenir parce que c'est une trilogie en fait, hein, que tu as fait.
Voilà,
donc
c'est le dernier
tome. C'est Dérapage sur l'herbe. Mais on va peut-être partir du début pour arriver à la fin.
Oui, tant qu'à faire, autant le faire dans ce sens.
Donc le premier c'était, ça
alors,
je me rappelle,
le premier,
de médaille
c'était
en revers.
Il y a deux ans, en ouais. 2019, de médaille en revers. Ça se passe dans la région Ys-Saint-Gelais essentiellement, même si ça déborde bien sûr un petit peu ailleurs, à Lyon, à Saint-Étienne, à Marvejols en Lozère. Mais c'est essentiellement Ys-Saint-Gelais. Et là, on a un personnage très en vue qui cumule un certain nombre de titres et de fonctions et dont le portefeuille cumule aussi un certain nombre de grosses coupures, hein. Donc, c'est un notable du pays, et parce que c'est un notable et qu'il a l'habitude à ce qu'on l'écoute et qu'on lui obéisse, il a quelques difficultés avec sa fille aînée et unique. Ouais, c'est l'aînée puisqu'elle est unique, forcément. Et elle n'a pas trop envie de marcher dans la foulée du père. Elle n'a pas du tout les mêmes points de vue. Elle n'envisage pas la vie de la même façon. Et surtout, ce qui lui pèse beaucoup, c'est le carcan notable familial. Et donc, le tome 1 va reposer essentiellement sur cette difficulté de communication entre le père et la fille, avec des moments quand même très très tendus et des moments dramatiques.
Oui, alors ça y est, ça m'est revenu, toi, quand tu as dit les voilà. Premières paroles. Et oui, donc, oui, la fille qui n'a pas du tout la même vision, son père est un homme très riche, il a pignon sur rue, hein.
Voilà.
Mais elle, non, c'est pas ce qui l'intéresse, franchement, elle veut mener une autre vie. Et donc, ça va être tout au long de ces trois romans, ça va être un peu l'évolution de cette jeune fille.
Voilà, on va la suivre, elle et ses copines, parce que il est, voilà. Quelquefois, des lecteurs me disent à propos de cette trilogie, bien sûr, Mathilde, c'est la fille du pharmacien Ys-Saint-Gelais, est le personnage théoriquement central de cette histoire, mais en fait, sa copine Alexandra, est un personnage très très important qui joue un rôle très important dans ses livres et ça ne manque pas de sel parce que Alexandra est l'une des deux filles des domestiques de la famille du pharmacien, de la famille Gréou, et donc il y a quand même un écart social important et c'est la grande amie. Et le père ne voit pas ça d'un très bon œil, si bien que ça va être intéressant à voir l'évolution, parce que dans le premier tome, il y a un mépris très fort d'Edmond Gréou, donc ce fameux pharmacien, vis-à-vis des petites Planchon, les deux petites blondinettes Planchon, qui ne sont que les filles de ses domestiques. Il aime bien le mot domestique d'ailleurs parce que ça souligne encore un petit peu l'écart social, Et bien sûr qu'il aimerait que sa fille fraye plutôt avec la fille du notaire, du député, de je ne sais. Bon, hélas, elle ne connaît que. Enfin, ne connaît. Ses véritables amis, ce sont ces deux jeunes filles et surtout l'aînée. Et alors, on va voir comment les événements au fil des trois livres vont énormément rapprocher ce monsieur Gréoux, très suffisant, de cette Alexandra, la copine à Mathilde, à tel point que je me suis permis dans le dernier tome de dire que si il l'aurait quasiment, lui, Gréoux, canonisé de son vivant, cette petite, tellement après, ils vont devenir non seulement complices, mais des soutiens l'un pour l'autre, et surtout, elle, un soutien pour lui dans les épreuves, parce qu'elles ne vont pas manquer.
Oui, alors tu vois, ça m'est tout revenu là quand t'as parlé, puisque oui, je me suis rappelé que c'était ces femmes de ménage, qu'on t'appelle ça les
Voilà.
domestiques, quoi. Ça m'est revenu, pharmacien. Il me semblait que j'avais quelque chose qui m'était revenu. Donc voilà. Alors après, le deuxième tome, en fait, c'est Piège en eau dormante. Donc ça va continuer, puisque le père, comme tu l'as dit, hein, dans le premier roman, il est tout à fait hostile à ce que veut faire sa fille. Mais tout doucement, et puis avec
Oui.
Alexandra, elle va essayer de le retourner un peu.
Ah ben, il va un peu se retourner tout seul et se retourner dans l'eau, parce qu'à la fin du tome 1, il lui arrive un accident au barrage de La Valette, et celui qui le sortira de là n'est autre que le copain qu'avait fréquenté sa fille pendant quelques mois, histoire à laquelle il avait mis fin de façon pas très noble, bah, quand même, avec un détective privé, il l'avait fait suivre, enfin. Donc là, il a pris un sacré coup derrière les oreilles, et il a fait un peu, comme on dit maintenant, repentance. Et quand on le retrouve dans le tome 2, donc Piège en eau dormante, l'an passé, en 2020, les relations se sont apaisées avec sa fille et on semble avoir trouvé le chemin du bonheur, grosso modo. Mais le malheur n'a jamais dit tout à fait son dernier mot et il va arriver un drame familial au mari qu'avait accepté enfin. Monsieur Gréoux pour sa fille. D'ailleurs, petite parenthèse, un mari qui était encore moins reluisant que le premier. Mais entre-temps, il avait pris un bon coup de semonce. Et donc, il avait accepté celui-là. Et ça se passait plutôt bien. C'était un bon gars. Avec Mathilde, ils avaient un enfant. Et puis, il va y avoir un drame de la route qui va à nouveau tout foutre en l'air. Et Mathilde va être très très fragilisée, malgré la présence des parents, malgré la présence d'Alexandra, très fragilisée et va devenir la proie de toutes les gens plus ou moins bien intentionnés. Et notamment, elle va rencontrer une sorte de gourou qui va l'embarquer dans une aventure assez étrange et dangereuse au cœur du Vercors. Voilà, ça c'est l'objet. Du tome 2.
Ouais, donc je crois qu'à l'époque on en avait parlé. On est en plein dans l'actualité parce que ça se rapproche quand même d'une secte.
Ah voilà, ça se rapproche, c'est plus que ça
Et
fait même
on en
plus que
parle
se
beaucoup en ce
rapprocher.
moment, hein,
Voilà.
donc voilà.
D'ailleurs, j'essaie au maximum de. Enfin, les auteurs régionaux, on a trop souvent tendance à les assimiler à hauteur du terroir, le terroir comme c'était le terroir, le pays, le paysage agricole, la vie dans la campagne. Personnellement, autant c'est régional, autant c'est pas du tout terroir. C'est-à-dire que j'essaie de me situer sur des faits de société. Là, c'est le problème dans le tome 2 de la secte. On va sombrer avec le tome 3 dans un autre fléau du moment et qui ne semble pas diminuer, mais que peut-être je ne vais pas révéler. Tiens,
Ah ben non.
ouais, voilà.
Ah ben faut pas le dire quand même,
On
hein.
va rester
Ouais,
dans le
ouais.
vague.
Ouais. Ouais, voilà. Oui, donc aujourd'hui, hein, je vous le disais, on reçoit Bernard Lost, qui va nous parler dans quelques instants du troisième volet, puis ses dérapages sur l'herbe qui se passe dans un endroit que j'ai bien connu, on va en parler, rue Tréfilerie à Saint-Étienne, où il y avait les facs de droit, de français à l'époque. Hein, voilà. Ouais. Bon, maintenant, ça a un petit peu changé, mais bon, la fac existe toujours. Hein.
Ouais, ouais.
Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut arriver, hein, Bernard Lost, hein, parce que... Et puis il y a des nouveaux arrivants hein, sur notre région. Donc, il est ancien enseignant et directeur de collège. Hein. C'est vrai qu'il a participé beaucoup à la vie de la société de communication, puisqu'il a une affaire d'édition. Enfin, je pense que c'est plus son fils maintenant.
Ah ouais, c'est... Ouais, moi, je suis là...
Tu supervises.
Un peu comme... Non, même pas. Non, c'est bien lui qui supervise.
T'es un conseil.
Mais moi, je suis là un peu comme tu dirais, un vieux meuble qu'on n'ose pas quand même...
Virer. Voilà, donc la clé du chemin. Hein, voilà. Et c'est ce qu'il disait, les héros des romans de Bernard Lost, c'est sur son quatrième de page, sont des personnages du quotidien embarqués dans des aventures insolites qui les obligent à sortir des sentiers battus, tenant le lecteur en haleine jusqu'au dénouement. Eh bien, dérapage sur l'herbe. C'est le 16e déjà, Bernard ?
C'est le 16e. Alors, c'est le 15e et demi, on va dire, parce qu'il y en a un au tout début qui était un roman un peu particulier que j'avais fait sur l'association des copains à Anvers.
Ah oui.
Et donc, qui était plus destiné à eux et à leur environnement immédiat. Et que donc... La clé du chemin ne réédite plus, alors que tous les autres, on les renouvelle régulièrement, comme ceux des auteurs qu'on a pu éditer, des quelques auteurs qu'on a pu éditer. On a toujours du stock et on continue. Et j'en suis très content à vendre des livres.
Oui, ça, disons que maintenant, t'es connu. Ouais, hein, c'est vrai que sur la région, puis bon, avant, on se voyait au. Arsac-en-Velay. Hein,
Ah oui, c'est une belle vitrine, Arsac-en-Velay.
Ouais, ça fait deux ans là que c'est mort.
Que cette grâce
mort,
de Covid nous le...
Ouais, nous a un peu arrêté. Mais bon, ça reviendra. Eh bien, on va faire une petite pause musicale et puis on va parler du dernier, le troisième roman, hein, Le dérapage sur l'herbe, donc qui va être... ça va être la fin, là, ça va s'arrêter. Mathilde, Alexandra vont s'arrêter, là. Enfin, ça va être la fin de l'histoire.
Oui, parce que je pourrais peut-être imaginer un tome 4 où je les mettrais, je les enfermerais à la maison de retraite, parce qu'elles ont pris de l'âge. Et donc, après tout, ça va bien, je vais peut-être tourner sur autre chose.
Ok. Allez, on se retrouve tout de suite après. Bien sûr, vous ne pouvez pas y échapper, là. Quand on parle de ses livres et qu'on parle de Mathilde, c'est Brel. Hein. Mathilde est revenue, la preuve, puisqu'elle est là.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque je suis là. Cœur, ne t'emballe pas, fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et mes mains, restez tranquilles, c'est un chien qui nous revient de la ville, Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas, Mathilde est revenue. Ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus, Mathilde est revenue. Vous mes mains, ne vous ouvrez pas, vous mes bras, ne vous tendez pas, sacrée Mathilde, puisque te voilà. Mère, arrête tes prières, ton Jacques retourne en enfer, Mathilde, mère. Apporte-nous du vin, celui des noces et des festins. Mathilde, mère revenue. Toi la servante, toi la Maria,
tendre mon front lit de drap. Mathilde m'est revenue. Amis, ne comptez plus sur moi. Je crache au ciel encore une fois. Ma belle Mathilde, puisque te voilà.
Mathilde est revenue, hein, puisqu'elle est là, elle est bien là avec Alexandra, et maintenant on va parler de ce dernier, de ce troisième roman, Dérapage sur l'herbe. Alors, bon, la première page, ben, pas de problème, hein, quand on connaît un petit peu, on reconnaît bien la grande rue de Saint-Étienne, hein, et là ça doit être l'avenue du 11 novembre, il me semble, voilà, c'est ça, oui, mais j'ai passé un peu de ma vie, moi, à Saint-Étienne. Et alors, tout d'abord, pourquoi ce titre, Dérapage sur l'herbe?
Ah, là, tu m'en demandes trop, c'est-à-dire que tu me casses la baraque. Alors, je vais essayer, tout en dérapant, je vais essayer de faire une pirouette. Alors, oui, j'imagine que l'herbe est mouillée, c'est la rosée du matin, j'en sais rien, il y a une bagnole qui dérape sur l'herbe. Je ne sais pas trop, hein, d'où vient ce titre. En fait, il deviendra évident parce qu'il ne va pas y avoir un seul dérapage, c'est au pluriel d'ailleurs sur le titre, bien sûr, mais plusieurs et de plusieurs personnes. D'accord. Donc, en fait, ce titre, j'ai mis longtemps à trouver un titre, j'en ai essayé plusieurs qui ne me convenaient pas. Et puis celui-là m'a assez plu parce que l'herbe est bien verte. Ouais. Enfin, faudra voir. Et les dérapages, il y en a plusieurs. Donc finalement, on va se trouver dans une situation assez glissante et qui va concerner non plus la génération de Mathilde, d'Alexandra, mais la génération suivante, puisqu'on va se retrouver en compagnie du fils de Mathilde, qui a 20 ans et qui se retrouve en fac. Donc on est tout près de notre époque, on est en 2014.
Ah d'accord, mais c'est ce que tu mets, son garçon, qui, son prénom ?
C'est Lucas.
Lucas, donc, ouais, tu dis deuxième année de droit au campus, à Tréfilerie, bien sûr, il a 20 ans, mais tu nous dis que c'est un garçon un peu timide, quoi.
Alors, voilà, ouais. Il est timide et le livre va commencer après. Il y a un chapitre d'introduction, ou de mise dans le bain, plutôt. Et puis après, je vais faire un large retour en arrière 20 ans plus tard pour raccrocher les morceaux avec Piège à nos dormantes et Deux médailles en revers. Mais je fais d'abord un chapitre pour plonger le lecteur dans la timidité de Lucas. Et le pauvre Lucas, donc je vais raconter un tout petit poil le premier chapitre à ma façon. Donc il est étudiant à Saint-Étienne, alors que le grand-père voudrait lui payer, parce qu'il en a largement les moyens, un appartement chouette, tout près de la fac, et le plier dans du coton. Les parents qui n'ont pas un bon souvenir du fric du grand-père, parce qu'il leur a posé trop de problèmes, veulent être indépendant, et ils vont lui louer un petit studio dans la rue Président Mazaric, je sais pas, quelque chose. C'est tout à fait c'est le quartier de Solor.
Ah ouais,
voilà. Donc il a chaque matin et chaque soir, il prend le tram et il vient à Tréfilerie et il a son bouquin, il se plonge là-dedans, comme ça il a plus besoin de parler à personne. Et puis un jour, il arrive dans l'enceinte de Tréfilerie, sur le campus, là, et il assiste à une colère, un échange assez vif entre deux étudiants, un garçon et une fille. Et la fille est en train d'envoyer balader le gars en termes peu chaleureux. Bon, il passe son chemin, il n'y fait pas spécialement attention. Il connaît un peu le gars parce qu'il est en cours avec lui, mais bon. Et le soir, à 5 heures, quand il ressort, il ne pense plus beaucoup à ça, et il voit une fille assise sur un banc, en train de la tête dans les mains, en proie à une grande désolation, apparemment. Et je ne sais pas, peut-être par l'opération du Saint-Esprit à les avoir, il en a fait d'autres. Il a un mouvement de... parce que c'est un brave gars, donc il n'aime pas voir la souffrance des autres, et tout timide qu'il soit, et comme cette fille n'est pas en posture d'être arrogante, puisqu'elle est en train de pleurer, il ose s'avancer, et il lui dit quelque chose ne va pas, et sa sollicitude va être bien mal récompensée parce qu'elle lui vole dans les plumes en lui disant d'aller se faire voir, qu'elle lui a rien demandé. Et donc, comme il est très timide, il part, j'allais dire, on s'est compris. Il est rouge comme une pivoine, et surtout, il appréhende beaucoup de revenir le lendemain matin. Parce qu'il dit, je vais croiser cette fille, si ça se trouve, elle sera avec des copines, on ricanait dans mon dos. Et c'est effectivement ce qui se passe. Quand il traverse le campus le lendemain, il croise un groupe de filles et il imagine, alors que peut-être elles ne parlent pas de lui, mais qu'elles sont en train de lui faire. Et donc, le soir, il est pressé de se tirer. Et en fait, la fille arrive dans son dos et l'interpelle et dit, tiens, va en remettre une couche. Et au lieu d'en remettre une couche, elle lui présente des excuses pour la veille et ça va se finir au bistrot. Voilà. Et là, on va assister donc à un début de métamorphose de ce Lucas, qui est la timidité même, et qui va se retrouver face à une fille avec qui il boit un coup au bistrot, ce qui lui est jamais arrivé en tête à tête, du moins, avec en groupe, oui, mais pas en tête à tête. Et on va profiter, à ce moment-là, on ne sait pas qui il est, et je vais ramener un petit peu la généalogie 20 ans plus tôt. Voilà.
Oui, alors, bon, d'accord, on a compris que Lucas, ça l'a, comment dirais-je, ça l'a ouvert un petit peu. Il a dit, finalement, les filles, bon, même si j'étais mal accueilli le premier coup, la petite est revenue sur... elle a trouvé peut-être que j'étais gentil, puis voilà, la relation s'est faite, quoi.
Voilà. Ça.
Alors, donc, c'est le fils de Mathilde.
Alors, c'est le fils de Mathilde, oui. Le fils qu'elle a eu avec son premier amour, puisque après que son père a tout fait casser, ça doit remonter 30 ans plus tôt, à peu près, avec son détective privé et tout le tralala, là... le garçon qu'elle visait, qui était un gars de Grazac, a trouvé lui-même chaussure à son pied du côté de Marvejol. Ils se sont perdus de vue. Et puis, des années plus tard, alors qu'elle est devenue veuve, la pauvre, et que le garçon a trouvé un jour, Philippe, le Grazacois, a trouvé un jour sa femme. Dans les locaux, elle était médecin et dans un cabinet médical à Marvejol. Et un jour, lui qui est infirmier a besoin d'un renseignement pour un patient qui est en grande souffrance. Et il dit, bon, je vais aller voir ma femme. Il ne la trouve pas à son bureau, mais par contre, il entend des bruits facilement identifiables à l'étage au-dessus. Et il se risque à aller voir. Il ne sait pas de qui il s'agit et il trouve sa femme en posture tout à fait sportive au-dessus avec un de ses confrères. Et donc, ils vont se séparer. Du coup, il revient sur le marché. Ça, c'est dans le tome 2, Piège à nos dormantes. Ils vont se retrouver et repartir ensemble. Donc, Lucas est le fils de ce couple qui avait vécu un premier amour contrarié, et puis après Gréou a baissé les bras et puis il a bien vu que le gars qu'il avait taillé 30 ans plus tôt était pas le mauvais gars quand même. Voilà.
Alors bon, on est toujours dans dérapage sur l'herbe. Alors oui, donc on a parlé de Mathilde, mais tu dis que sa copine Alexandra est bien là. Est toujours là, alors.
Ah, elle est là et elle est toujours là.
Oui, Alexandra, alors, quel rôle elle va jouer, là? Enfin, sans paraître tout dévoiler.
Alors, elle va toujours jouer un peu le même rôle vis-à-vis de Mathilde. C'est vraiment la grande sœur, pas vraiment la grande sœur puisqu'elles ont le même âge, mais la confidente, c'est comme disait je ne sais quel homme politique, il n'y a pas une feuille de papier de cigarette entre nous deux, quoi. Alexandra, et alors Alexandra a plusieurs qualités qui seront intéressantes. D'abord, elle est très, très, très vive d'esprit. Ce qui, d'ailleurs, dans le tome 1, contrariait beaucoup le père Gréou. Parce que la fille des domestiques, qui avait eu au bac une mention que sa fille n'avait pas pu avoir, on était dans le crime de lèse-majesté, là, quand même. Et donc, elle est très, très vive d'esprit, a beaucoup d'imagination, beaucoup d'altruisme aussi. Et tout ce qui peut arriver... à Mathilde, notamment à son amie, elle ne lui a jamais fait défaut. Et là, comme la famille Gréoux va se retrouver face à de nouvelles épreuves dans ce tome-là, épreuves bien sûr dont je ne parlerai pas, eh bien Mathilde va, pardon, Alexandra va à nouveau être la béquille qui va servir à toute la famille d'ailleurs, aussi bien au père Gréoux qu'à la mère, qu'à la fille, et elle va un petit peu servir aussi de béquille à la police, parce que la police se retrouve dans ce dernier roman face à un fait divers, enfin un fait de délinquance qui est purement inexplicable, et donc comme il est inexplicable, celui qui est dans le collimateur, comme on ne peut rien trouver pour le disculper, ben voilà, il va passer à la casserole, quoi. Il va être obligé de trinquer. Et Alexandra va se glisser un petit peu dans la peau de la police, aidée d'ailleurs par le détective qui, 30 ans plus tôt, leur mettait des bâtons dans les roues. Ouais. Et donc ça va donner lieu... j'ai été très surpris. Il y a quelques jours, j'ai reçu, quand j'ai annoncé qu'il y avait la dédicace au plaisir des mots, je veux mon petit laïus, ouais. Et j'ai une de mes lectrices qui a écrit... que ce polar était, était très, très agréable à lire. Ce polar, alors moi, j'avais pas l'idée d'avoir fait un polar, mais c'est vrai qu'il y a une enquête policière, d'accord. Mais c'est pas du Jean-Pierre Lhermier, par exemple.
Alors,
dans le style polar, c'est beaucoup plus soft. Ouais. Mais enfin, il y a une intrigue policière qui est assez prenante. Et Alexandra, et notamment elle est intéressante parce que ceux qui finalement arriveront à dénouer l'intrigue, ce sera plus Alexandra dans un premier temps, plus le détective privé qui arriveront eux à glaner des petits indices, des informations qui serviront tout chaud à un capitaine de gendarme de police qui est très sympa et qui est pas imbu de lui-même et de son pouvoir et qui prend tout ce qui peut lui apporter de l'eau à son moulin et qui est bien content de récupérer leur trouvaille. Donc cette Alexandra, c'est un personnage qui accroche beaucoup. J'ai un autre lecteur un jour qui me fait un petit laïus sur Alexandra, que lui c'est Alexandra, et c'est, je lui ai dit, écoute, mon petit chasse gardé, je me la suis déjà réservé, moi.
Et oui, donc, et là, alors, on oublie Lucas ou pas du tout là dans cette histoire?
Ah, on l'oublie pas.
Surtout pas, ouais, c'est ce que je pensais.
Surtout
un
pas.
Peu, ouais.
C'est lui qui est au cœur de l'histoire et qui, lui, le timide Lucas qui demande rien à personne, qui est sérieux dans son travail universitaire, qui, enfin, c'est pas la perfection, mais guère s'en manque, va se retrouver mêlé à une histoire. On est dans, quand même dans de la délinquance à un certain niveau, et il va être considéré comme le suspect numéro 1.
D'accord, ouais.
Et c'est là que bien sûr vont intervenir tous ses fidèles soutiens, et en tête desquels Alexandra.
Donc dans ce dernier roman Dérapage sur l'herbe, tu remets tout le monde là.
Alors,
le grand-père,
le
fils,
tout
le monde est là.
On retrouve, j'essaie de parcourir un peu, il y a peut-être un peu la petite sœur d'Alexandra qui est loin, elle dans l'Isère, qui joue pas de rôle, mais les autres sont tous là, y compris, on assiste à une espèce de retrouvaille entre le pharmacien dit Saint-Jean, homme très en vue, et quelqu'un qu'il avait beaucoup dénigré au moment où son fils venait tourner autour de sa fille, c'est-à-dire le garagiste, le marchand de cycles de Grazac. Il l'avait taillé comme c'est pas possible sans même bien le connaître, mais il lui avait dressé un portrait peu flatteur, et on va les retrouver dans cette dernière histoire au coude à coude. Parce qu'il a coulé de l'eau sous les ponts, et que, mon Dieu, ben voilà.
Ouais, comme quoi tout s'arrange avec
Mais j'ai du mal, j'ai du mal à finir un bouquin sans arranger le moins de choses.
Un peu, ouais, c'est comme les Américains hein, dans leurs films. Ça se finit toujours bien en général.
Oui,
parce qu'ils n'aiment pas que les... Puis je sais pas, il y a un autre... Ah ben c'est... Qui c'est ? Il y a un auteur qui m'a dit ça. Je sais plus qui c'est qui est venu. Et ça finissait toujours mal. Et son éditeur lui a dit, il faudrait peut-être tes romans qui les finissent un peu mieux. Parce que c'était toujours des trucs...
Oui, quand même, les gens...
Et je me rappelle plus qui c'est.
Les gens aiment bien, même si ça a été un peu, entre guillemets, saignant dans le cours de l'histoire... Ouais. Que finalement ils puissent s'endormir tranquille une fois la dernière page tournée, quoi.
Allez, on fait une petite pause et puis après on terminera cet entretien, parce qu'il ne faut pas aller trop loin non plus. Si on dit la fin, c'est pas bien. Alors on a eu Mathilde, on a Alexandra, et quand on a Alexandra, qui est-ce qu'on a? Eh bien c'est Clo-Clo.
Sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Et partout sur le Nil, je suis dans ta vie, je suis dans tes draps. Oui, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Parc sur le Nil. Alexandrie, Alexandra, ce soir j'ai de la fièvre, toi tu meurs de froid. Ce soir je danse, quand je danse dans tes bras.
Voilà, c'était donc l'ami Clo-Clo pour Alexandrie Alexandra, puisque nous on a une Alexandra hein, avec Bernard qui nous présente son dernier livre, Dérapage sur l'herbe. Alors on est presque arrivé, on va pas déraper nous, hein, parce qu'on va pas vous dire la fin hein, quand même, Bernard. Donc la fin de cette trilogie, eh ben, il faudra le lire hein, pour savoir comment ça se termine.
Voilà, oui, c'était ma première trilogie, ce sera vraisemblablement la dernière, ou alors il faudrait que le Père éternel se montre très très généreux et qu'il m'accorde encore un peu de temps. Mais bon, ça a été une... Je savais pas au début, bien évidemment, en faisant le tome 1 qu'il y aurait un tome 2, ni quand j'ai fait le tome 2 qu'il y aurait un tome 3. J'ai été un petit peu mis au pied du mur par une de mes lectrices, mais qui est aussi, qui lit les bouquins avant les autres, puisqu'elle fait partie de mes correctrices. Elle habite dans les Landes, mais c'est des gens qui étaient originaires de Haute-Loire. Et elle m'a dit, il faudrait faire un tome 3, ça marche bien les trilogies. J'ai dit, avec quoi je vais faire un tome 3? Mais j'avais de la chance, puisque j'étais dans les années 80, 90. Je m'étais arrêté l'an passé en 93. Et donc, il nous restait encore un peu de marge jusqu'à 2020 pour faire une nouvelle génération, d'où l'arrivée sur le marché de Lucas. Et puis de la petite copine qu'il va rencontrer qui s'appelle Adeline, mais qui vient de Saint-Genès-Malifaux. Voilà, c'est. Mais ça s'arrêtera là, hein. Forcément, ce sera. Je vais laisser ces gens se reposer un peu maintenant que je leur ai fait. Parce que c'est facile quand on écrit de faire arriver tous les malheurs de la terre aux gens. On n'en souffre pas tellement soi-même, mais donc je vais leur laisser un petit peu, je vais les laisser respirer un peu.
Un peu de répit.
Voilà, hein? c'est ça.
Alors, vous, Dérapage sur l'herbe, bien sûr, comme on dit, vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies, notamment chez nos amis Viviane et Marie-Pierre, hein, au plaisir des mots.
Oui.
D'ailleurs, tu y seras.
J'y suis théoriquement après-demain,
le samedi 19.
Il a été prévu que si le temps était à l'orage, on reporterait au 26, mais enfin, je scrute la météo, ça devrait passer.
C'est risque d'orage, mais c'est toujours le même problème avec les risques d'orage, on ne sait jamais où ça va passer. Donc, vous pourrez retrouver Bernard pour peut-être les trois, hein, si vous en avez lu aucun. Il y aura les trois.
N'hésitez pas. Surtout, ne commencez pas par Dérapage sur l'herbe.
Ah oui, vous ne commencez pas le dernier, là.
Ouais. Donc, il vaut mieux commencer par le premier, même si on n'en lit qu'un, autant que ce soit le,
ouais, parce
le
qu'après,
premier,
oui,
malgré
si,
tout. Parce qu'un jour, l'autre vous tombe entre les mains parce que quelqu'un vous le passe, voire même que vous le retrouvez dans un vide-grenier.
Ouais.
Donc,
encore, quand même.
Non, il y a quelques lecteurs qui me disent avoir lu mon livre en l'ayant trouvé sur un vide-grenier, mais quand je regarde un peu les vide-greniers, j'y trouve pas trop de mes bouquins, donc ça va.
Ouais, donc voilà, alors tu sais, tous les auteurs qui viennent, j'ai la question traditionnelle, est-ce qu'il y a un autre roman sous le coude? Alors tu m'as dit peut-être, mais pas forcément. Pas pour le moment.
J'ai une idée, la grosse différence avec les années précédentes, c'est que quand j'arrivais au mois de juin, les années précédentes, l'histoire que j'écrirais, parce que je suis réglé un peu comme du papier à musique. Je commence à écrire le 1er octobre. Enfin, ça peut être le 30 septembre ou le 2 octobre, mais c'est début octobre. Et ça se finit théoriquement au 15 janvier pour qu'après il y ait le temps de la relecture et que le livre sorte le 21 mars, ou le 20 mars, 21 mars, pour qu'on soit au moment du printemps. Et donc, d'habitude, en juin, dans ma tête, c'est un peu plus ficelé que cette année, pour une raison toute bête, c'est que quand j'allais en dédicace, et donc j'étais dans le... Comment dire? Mon esprit était dans l'idée du livre, du bouquin, du roman, puisque j'allais en dédicace, chemin faisant, Je laissais la muse me caresser doucement les oreilles ou le cerveau. Et là, comme avec le Covid, on a ben, les dédicaces, on n'en a pas fait beaucoup. Je suis sorti beaucoup moins. Et du coup, j'ai consacré beaucoup moins de temps à réfléchir au prochain bouquin. Alors, j'ai l'idée, j'ai le. Mais il faut que maintenant, je me bouge un peu. Mais ça devrait être bon quand même pour le printemps prochain. Mais c'est secret défense pour le moment,
D'accord, oui,
puisque
non,
je ne
mais
suis même pas sûr
l'idée,
de mon.
ça
J'ai
sent
une
cette
vague idée.
idée-là.
Ce sera de toute façon sur un thème qui défraye la chronique ces dernières années. Alors, amis lecteurs qui m'écoutez, vous pouvez faites vos jeux. Un thème qui défraye la chronique. Alors, il peut y en avoir
Il y en
tellement,
a,
il
y a
peut
de
y en
quoi
avoir
faire. Hein.
tellement,
Bah, tu as déjà
mais vous pouvez.
t'as un thème récurrent, c'est le Covid. Hein.
Oui.
Donc
Ah
déjà,
mais
celui-là.
alors là, je donne déjà une réponse. Ce sera pas ça,
Non, non, mais je dis
parce
comme ça.
que il nous a ou elle nous a assez emmerdés jusque
Ouais.
maintenant. Oh, pardon, j'ai peut-être dit un gros mot.
Non, non, non.
On
Oula,
va
mais
pas
non.
lui dresser un piédestal.
Non, non,
Hein.
exactement.
Non.
Non, non.
Donc ce sera pas, mais ce sera quelque chose qui revient dans l'actualité, qui peut prêter à sourire ou à mettre en colère certains. Vous verrez bien, faites vos jeux, les paris sont pris. Vous verrez bien si vous tombez sur le bon sujet.
Très bien,
Voilà.
écoute, Bernard, merci d'être avec nous. Donc, je rappelle, trilogie de médailles en revers, piège en eau dormante et le dernier dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, dérapage sur l'herbe. Donc, c'est les trois romans, c'est la fin, hein, ça c'est le dernier, enfin, c'est le dernier de cette trilogie.
Oui.
Ben, à
Alors,
découvrir.
je lui ai affecté un petit qualificatif à cette trilogie. Je me suis fait gonfler un peu les chevilles. Il y avait eu jadis une trilogie qui était la trilogie
Ah
marseillaise.
bah oui.
Je me suis dit, tiens, ça ferait joli pour la qualifier, cette trilogie. Comment? Alors, je
Bougeant.
l'ai appelée la trilogie Ysingelaise,
Ah, il
parce que
s'agit, oui.
c'est quand même
C'est Issinger au
Ysingeau qui
centre.
reste toujours au centre dans les trois bouquins, avec plus ou moins de présence Ysingelaise, mais quand même, on revient toujours à la source.
Mais écoute, on te souhaite autant de succès que la trilogie marseillaise.
Bon, là, c'est peut-être rêver un peu,
Il faut toujours rêver.
mais bon, l'essentiel, c'est que ça reste un succès à
Ouais.
ma petite échelle à moi,
Ouais.
parce que j'aime pas les trop hautes échelles, j'ai le vertige, donc je préfère rester assez près du plancher des
Ouais, puis
vaches.
il faut bien rêver, hein, c'est ce que je dis toujours.
Oui,
Le
bon,
rêve,
ouais.
c'est la seule chose qui reste gratuite, donc.
Ouais.
Ben merci Bernard d'avoir été avec nous.
Ben, merci
Et au
à toi,
prochain livre quand
Jean-Pierre,
même,
de
hein.
m'avoir une nouvelle fois
Ah ben
accueilli.
non, on est là pour ça, chaque fois je le répète.
Merci aux auditeurs de Radio Craponne d'avoir eu encore la patience de m'écouter. Bon, si certains ont coupé le son à un moment parce qu'ils ont dit, mais on commence à l'avoir assez entendu celui-là, ben je leur pardonne
Non,
et
il
je les
coupe pas le son.
comprends aussi. Mais c'est toujours un plaisir, quand on est en dédicace, de voir quelqu'un qui vient vous dire, ah, je vous ai écouté sur Radio Craponne. Voilà.
Non, nos auditeurs sont pas comme ça, ils coupent jamais le son.
Non. Bon.
Allez, salut à tous.
Salut, merci.
Notre invité de jeudi aujourd'hui était Bernard Loss qui est venu nous présenter son dernier livre de la trilogie Dérapage sur l'herbe. Je vous rappelle, cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Alors également, c'est sur notre site internet, mais vu que depuis quelque temps, on a un problème puisque notre serveur est en Suisse et que le serveur a brûlé. Et pour l'instant, ils mettent un peu de temps, je trouve, les Suisses, à nous remettre en route. Mais bon, vous retrouverez quand même bientôt sur Internet. On attend ça avec impatience. Salut à toutes et à tous. Notre invité du jeudi aujourd'hui était Bernard Lost pour son dernier roman, Dérapage sur l'herbe. Amira, mira, lola, lola, lola.